Bonsoir à tous. En cette période où les affrontements n'ont pas cessé, tant en France que dans le monde entier, j'ai choisi avec Eliane de vous parler de trois mots très proches que je me suis permis de vous représenter sur une grille de mots croisés. Il s'agit de panim, neged et moule. Et pour commencer, le mot panim, qu'on voit souvent employé dans l'expression panim el panim, qui veut dire face à face et qui pourrait très bien faire l'objet d'un titre d'émission télévisée. Je ne fais pas de pub. Peut-on indifféremment parler de face ou de visage? Étymologiquement, le mot face vient de faire, alors que le mot visage, qu'on retrouve dans vis-à-vis, vient de voir. Dans le premier cas, on est dans l'action. Dans l'autre, on est dans la perception. À noter au passage que le mot gueule fait plutôt référence à la déglutition. Gola en italien signifie la gorge. En hébreu, le mot panim contient des lettres qui évoquent à la fois l'action et la perception. Il existe deux types principaux de conjugaison dans les verbes en hébreu. Ce qu'on appelle le pa'al, qui commence par un P et qui représente la forme active. Et puis il y a le nifal. Je ne détaille pas tous les... En fait, il y en a sept différentes, mais enfin, c'est deux groupes principaux. Donc, le nifal commence par un nun et ça représente les formes passives des verbes. Or, le p, donc de paral, correspond à la bouche. Bouche en hébreu, ça se dit p. Or, parler, c'est déjà agir. Inversement, le nun, qui est donc dans le nifal, est la lettre finale du mot aïn, qui veut dire l'œil, et du mot ozen, qui veut dire l'oreille, qui sont tous les deux des organes sensoriels qui vont capter passivement les informations dont ils disposent. Le mot panim, qui est le pluriel de penei, visage, contient à la fois un P et un Nun, donc un actif et un passif, donc à la fois une face et un visage. Hop, attendez, j'ai oublié de vous passer le diapo. Je ne sais pas si vous l'aviez vu cette photo ou pas.
Oui, oui.
Souvent, je passe là. Donc on a Nifal en bleu et Paal en rouge. On rencontre dans la Torah, au moins à trois occasions, l'expression « panim el panim ». La première, dans le combat de l'ange, de Jacob avec l'ange. Il y a une citation dans la Torah qui dit « Vaikra Yaakov sham amakom peniel ki raiti Elohim panim el panim » Ve tinatzel nafshi, ce qui veut dire que Jacob a appelé ce lieu Peniel, car j'ai vu un Dieu face à face, et que ma vie est restée malgré tout sauve. Un deuxième endroit où on retrouve cette expression, c'est dans l'histoire de Moïse, Védiber Hachem el Moshe, Panim el Panim, Ka Asher Yedaber Ish el Re'eu, qui veut dire, or l'Éternel s'entretenait avec Moïse face à face, comme un homme s'entretient avec un autre homme. Et enfin la troisième, qui témoigne du caractère quand même exceptionnel de cet affrontement avec l'Éternel. Vélo, dame, navi, non, kam, navi, Od, B, Israël, Kemoshe, Asher, Yedeo, Yedeou, Hachem, Panim, El Panim. Ce qui veut dire que, mais il n'a plus paru en Israël un prophète tel que Moïse, avec qui le Seigneur avait communiqué face à face. Qu'est-ce qui a permis d'établir, tant pour Jacob que pour Moïse, cette relation privilégiée avec l'Éternel? Alors, dans le cas de Jacob, c'est son esprit combatif qui lui a valu d'être nommé Israël au prix d'une paralysie du nerf sciatique. En ce qui concerne Moïse, c'est sa démarche libre. Vayomer, altikrav alom, shal naalecha me'al raglecha, ki amakom asher ata omed alav admat kodesh ou. Ce qui veut dire, il reprit, n'approche point d'ici, ôte ta chaussure, car l'endroit que tu foules est un sol sacré. Hachem demande en fait à Moïse de se déchausser avant de fouler le sol sacré où se trouvait le buisson ardent. Comme l'avait justement remarqué Marc-Alain Wattine lors d'une de ses conférences, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, à Annecy, il y a quelques années, Na'al veut dire fermé. Et quand Hachem demande, quand je dis Hachem, c'est Dieu, hein, bien sûr, lui demande d'ôter sa chaussure, il lui demande en fait d'enlever sa fermeture, en fait sa fermeture d'esprit, afin d'être un homme libre qui ne suit pas le troupeau, en particulier celui de son grand-père, Laban. Et alors, il pourra... Non, c'est pas Laban, c'est de son beau-père. Et alors, il pourra libérer et écouter les autres. Revenons maintenant à nos mots croisés avec le deuxième terme de mon exposé. C'est Neged qui renvoie dos à dos les deux protagonistes. Vous connaissez certainement la fameuse phrase de Sacha Guitry, « Je suis contre les femmes, tout contre. » Et cette phrase illustre très bien celle de la Genèse où l'Éternel se dit « Lotov » Et yot à Adam levado et esselo ezer ke negdo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide contre lui. Alors, je vais enlever là, donc là vous voyez le texte. Pour mieux illustrer mon propos, j'aurais dit à la place de Sacha Guitry, la femme est contre l'homme, tout contre. En ce sens qu'elle va lui apporter à la fois une nécessaire contradiction et en même temps l'amour qui va le fortifier. Elle est exactement comme un tuteur pour un plant de tomates. Sans femme, l'homme est pauvre. En hébreu, pauvre, ça se dit dal. Même s'il se croit tout puissant. La femme lui apporte, en s'opposant à lui, qui demeure passif, ce dont il a besoin, c'est-à-dire un foyer, une famille et surtout une contradiction. Nous en parlerons plus loin. On retrouve l'expression « Neged » au sujet de Agar et d'Ismaël. « Al ere bemot ayeled » Va tachev mineged, va tissa et kola beteber. C'est-à-dire, je ne veux pas voir mourir cet enfant, et ainsi, assise du côté opposé, elle éleva la voix et pleura. À propos d'enfants, j'aimerais vous faire partager une petite réflexion au sujet de l'étymologie du mot yeled, qui veut dire enfant, qui est directement lié à la notion d'accouchement, puisque accoucher, c'est le mot Léda. Tout comme on appelle la sage-femme ou l'obstétricien Mayéledet, c'est-à-dire celui qui va faire des enfants, même si ce n'est pas lui qui fait directement. Si on analyse les lettres de la racine LED, on trouve non pas Light Emitting Diode, qui désigne le LED français, qui nous éclaire, à notre époque en tout cas, mais vert enseigné pour la MED, donc la MED ça veut dire à la fois vert et enseigné, et le mot d'Alette, enfin la lettre d'Alette veut dire porte ou pauvre, d'Al ou d'Elette ou d'Alette, enfin c'est un peu la même racine en tout cas. Comme son nom le suggère en français, l'obstétricienne fait obstruction. Elle fait obstacle en se plaçant debout face à cette porte de sortie de la mère qui est accouchée, donc par opposition à debout. Et donc elle se place debout face à cette porte de sortie de la mère accouchée que devra franchir le bébé. Elle va aider ce dernier à fléchir la tête pour réduire au maximum son diamètre, avant de la redresser pour l'expulsion. Est-ce qu'on peut, peut-on considérer ce geste comme un premier signe de soumission, comparable à la porte de l'humilité de l'Église de la Nativité, comme par hasard, de Bethléem? Je ne sais pas s'il y en a déjà qui sont allés à Bethléem, qui ont vu cette petite porte qu'il faut franchir en baissant la tête. Et bien c'est exactement ça, comme pour l'accouchement. Et nous en arrivons au troisième terme de notre grille de mots croisés, à savoir le mot moule, qui signifie aussi en face de, devant. Et une fois de plus, nous allons aller à la pêche au moule, dans le texte de la Torah, et à cette occasion, je vais essayer de vous exposer ma méthodologie de recherche, mes secrets pour faire une bonne pêche. Alors, j'utilise le site sepharim.fr qui contient toute la Bible, notamment la Torah, qui correspond donc au Pentateuque, avec une version en hébreu et une version en français qui sont disposées côte à côte. Au-dessus, il y a un onglet qui permet de faire des recherches de mots ou des fragments de mots, soit en français, soit en hébreu. Et on peut limiter cette recherche soit à un chapitre, soit à toute la Torah, soit même à toute la Bible. Et ainsi, dans la diapo proposée, j'ai fait une recherche du fragment de mot moule en hébreu dans toute la Bible. Et j'ai retrouvé 136 occurrences qui sont citées dans la partie basse de la fenêtre. 50 d'entre elles sont dans la Torah, dont 18 dans la Genèse et 15 dans l'Exode. Mais attention, dans ces occurrences, ça peut être aussi une partie d'un mot qui est plus long. En fait, le vrai premier mot complet moule, dans le sens vis-à-vis, ne se verra qu'au verset 18-19 de l'Exode. En dehors de la Bible et des eaux toratoriales, si on peut dire, on rencontre le mot moule dans une prière qu'on chante le matin ou à Shabbat, et qui a été composé par un poète qui s'appelait Elazar Azikri au XVIe siècle, et qui s'appelle Yedid Nefesh. On dit, Ishtahave el moul adarach, c'est-à-dire je me prosterne devant ta grandeur. Alors Yedid Nefesh, ça veut dire l'ami de mon âme. Alors, faut-il rejeter à la mer les moules inclus dans d'autres mots tels que etmol, qui veut dire hier, molatera, qui veut dire ta descendance, imoul, qui veut dire circoncire, ou gemoula, qui veut dire rémunération. Mais tout d'abord, que nous dit ce radical moule? Eh bien, il faut le rapprocher du mot malé, qui veut dire plein, remplir. Il est composé d'un mot, d'une lettre M, même, qui se rapporte à l'origine, d'un vav qui a une sorte de lien de coordination, et d'un lamed qui se rapporte à une destination. Et que ce soit sur le plan spatial, on dit par exemple Aniba, mi New York, les Paris, mi New York, les Paris. Donc deux, je vais donc à Paris, de New York à Paris en avion. Je répète, Aniba, mi New York, les Paris, Bamatos. Donc ça, on a vu sur le plan spatial, mais aussi sur le plan temporel, ou même désignant l'origine des temps, le hier, on dit etmol, et lamed, c'est le futur. C'est d'ailleurs le lamed est la dernière lettre du texte de la Torah. Sur cette photo, vous pouvez voir une scène de la Haggadah de Pessah, où on chante, tout en faisant passer le plateau du Seder sur la tête des convives, la prière suivante. On chante Et mayom, qui veut dire hier nous étions esclaves, aujourd'hui des enfants libres, aujourd'hui établis, et vers l'année qui vient à Jérusalem. Attardons maintenant sur la racine gamelle, qui contient également les lettres mem et lamed. À noter que la gamelle de ce chien est bien pleine, mâlée. Il est probable que le mot gamelle vient de l'hébreu, de même que le mot chameau, qui se dit en hébreu gamal. Savez-vous que le chameau a un réservoir gastrique de 130 litres et deux bosses de 75 cm de hauteur remplies de graisse. Sachant que par ailleurs qu'il a peu de pertes d'eau cutanée et urinaire, on devine que le chameau est un animal vraiment indépendant. Il peut tenir un mois sans manger et sans boire, en particulier dans le désert. Or, il y a un endroit dans la Torah où on parle beaucoup de chameaux. C'est dans l'histoire de Rebecca. Cette jeune fille, qui va, vous le savez, bientôt devenir l'épouse d'Isaac, a été choisie par Eliezer, le serviteur de son père Abraham, car c'est une femme qui est à la fois généreuse, aimant les animaux. Elle va puiser 130 litres pour chacun des 10 chameaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle est courageuse, elle est déterminée, elle est indépendante, elle est vive, rapide, très belle et en plus vierge. Bref, toutes les qualités qu'un homme peut espérer d'une femme. Son nom, Rebecca, provient de la racine ravek, qui veut dire engraisser. Mais on peut aussi la décomposer en rave et bec, qui veut dire comme en canadien gros bec, c'est-à-dire des gros bisous. Ce qui veut dire probablement qu'elle devait être aussi très affectueuse et tendre. Mais aura-t-elle le courage de quitter, autrement dit de se sevrer de sa famille pour suivre Eliezer, le serviteur d'Abraham? C'est la raison pour laquelle ce dernier avait amené 10 chameaux, et non deux, qui auraient largement suffi, ce qui lui permettra d'emporter tout ce à quoi elle tient. De même que Rebecca avait pensé à abreuver aussi les chameaux qui ont conduit Eliezer jusqu'à elle, Eliezer a pensé au transport du chameau, en chameau, je veux dire, de la nourrice et des servantes qui accompagneront Rebecca vers Isaac de telle manière qu'ils ne se sentent pas déracinés. La lettre d'Imel, que nous avons représentée en jaune dans les mots croisés au début de l'exposé, est un symbole de force et de grandeur. On la retrouve d'ailleurs au début des deux mots Dibor et Gadol, qui veulent dire fort et grand. Cette lettre ressemble à un chameau, Gamal, ou à une girafe si on veut, avec ses deux pieds qui marchent vers le Dal. C'est la troisième lettre de l'alphabet. Alors Dal qui veut dire le pauvre, hein, donc c'est la troisième lettre de l'alphabet hébreu qui va vers la quatrième, puisqu'on a Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dans l'alphabet latin, cette troisième lettre est transformée en un C, comme chameau. Sa forme courbée rappelle la bosse généreuse du chameau, mais elle a perdu ses pieds. Autrement dit, elle a des réserves, mais elle ne les utilise pas. Le guimel a donc un sens de générosité active. Elle se déplace, contrairement au C. D'ailleurs, lors d'un retour d'un grand voyage, on a coutume de réciter la prière du Gomel. Baruch Ata Hashem, Eloheinu Melech Haolam, A Gomel El Lechayavim Tovot, Shegmaladit Koltov, qui veut dire « Béni sois-tu, roi de l'univers, qui prodigue à ceux qui en sont indignes, même pourtant indignes, tes bontés dont tu m'as comblé. » Dans les Massim des Pères, Pirkei Avot, il est dit que la Gemilut est le troisième pilier sur lequel repose le monde avec la Torah et le service de l'Éternel. Donc ça veut dire, enfin, la charité, c'est le troisième pilier sur lequel repose le monde. Trois fois dans la Torah, on nous demande de ne pas mélanger la viande et les laitages. On doit en principe attendre une demi-heure entre le lait et la viande et trois voire six heures entre la viande et le lait. Du fait, et tout, pourquoi on a cette coutume? Parce qu'il est marqué trois fois dans la Torah, Lo tevachel gedi be chalev chalev imo. On l'a dans l'Exode 23-19, dans l'Exode 34-26 et dans Deutéronome 14-26, donc 21. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Alors tevachel, certes, ça peut signifier cuire, mais ça peut venir aussi mûrir. Et le verset peut très bien signifier en filigrane, ne laisse pas mûrir le chevreau ou l'enfant dans le lait de sa mère. Autrement dit, il faut sevrer l'enfant. Et on dit le même mot d'ailleurs pour le sevrage, on dit gomel pour parler du sevrage. Et ça, il faut le faire au plus vite et le libérer par l'apprentissage, pour qu'il se débrouille tout seul, comme un grand, dès que possible. Autrement dit, le juif ne doit pas ou ne devrait pas être un tanguy. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi ce commandement sur le lait et la viande ne s'adresse qu'à nous les juifs? Eh bien, tout simplement parce que les mères juives ont souvent tendance à être de vraies mères poules. Et je vous invite d'ailleurs à écouter une des dernières et des plus belles chansons de Georges Moustaki en hommage à sa mère juive. Un autre symbole du sevrage et de l'indépendance est celui de la circoncision. C'est bien sûr un signe d'alliance avec l'Éternel. Mais pour Maïmonide, et son opinion n'engage que lui, elle favoriserait une certaine indépendance vis-à-vis de la passion sexuelle. Je vous lis intégralement, sans aucun commentaire, un passage du Guide des égarés. Je crois que l'un des motifs de la circoncision, c'est de diminuer la cohabitation et d'affaiblir l'organe sexuel, afin d'en restreindre l'action et de le laisser en repos le plus possible. Le véritable but, c'est la douleur corporelle à infliger à ce membre et qui ne dérange en rien les fonctions nécessaires pour la conservation de l'individu, ni ne détruit la procréation, mais qui diminue la passion et la trop grande concupiscence. Que la circoncision affaiblisse la concupiscence et diminue quelquefois la volupté, c'est une chose qu'on peut douter, car si dès la naissance on fait saigner ce membre en lui ôtant sa couverture, il en sera indubitablement affaibli. En conclusion, il ne faut pas rejeter à la mer les autres moules qui nous éclairent sur sa signification profonde, à savoir qu'il est bon de faire face à autrui et de l'affronter de manière généreuse, courageuse, libre et indépendante, y compris quand il s'agit des siens. Je vous remercie de votre attention et je m'apprête, après l'Assemblée générale, à me confronter à vos questions et remarques.
Merci beaucoup, Patrick. Alors, je crois que c'est tellement riche que ce serait bien qu'on ait tout sous les yeux. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre des notes, mais c'est vous dire ô combien les lettres hébraïques, les mots formés, sont d'une telle richesse que l'on comprend que depuis, on va parler quoi, de plus de 2000 ans, eh bien, le peuple juif se confronte avec toute la force qu'il peut avoir et en même temps toute la manière généreuse, indépendante, de travailler les lettres hébraïques, les mots, et de pouvoir trouver dans la Torah mille sens et leur contraire. Donc vous comprenez ô combien c'est complexe d'être juif, et quand on ne l'est pas, bah, c'est encore plus complexe de pouvoir travailler, chercher, comprendre les textes bibliques et de se dire, eh ben, pour le monde chrétien, Jésus, il avait quand même tout compris, hein. Il savait. Voilà. Il faut de l'inspiration aussi. En tout cas, mille merci parce que c'est un énorme travail. Patrick va toujours chercher loin. Pourquoi on a pris ce thème-là qui est un peu particulier? La fraternité, on l'avait déjà fait. L'espérance, on l'avait aussi vue. Mais là, c'est plus subtil parce que finalement, ce contre, ce pour, tout ce qu'on a dit, il y a tellement la rencontre avec l'autre et toutes nos différences. Alors, je pense qu'il faut revoir, aller sur... on a dit le site, non, à cause des photos. Et
ah oui, donc c'est pour ceux qui veulent avoir le diaporama, donc comment on peut aller en voir, je peux l'envoyer à titre privatif, je vais vous mettre mon adresse mail pour ceux qui l'ont pas, et puis comme ça, si
vous voulez regarder et revoir
le diaporama.
Peut-être, si tu étais d'accord, oui, que tu pourrais faire une copie du fichier, mais sur la copie, enlever les images. C'est-à-dire qu'on aurait tout le texte,
oui,
mais sans les images. Et là,
oui, ça bien sûr. Là, le texte, c'est pas de problème, mais pour les images, donc comme elles sont.
Voilà. Ouais. Non, mais après, tu envoies la totalité à celles et ceux qui le veulent.
Oui.
Moi,
oui.
Moi, je vais mettre la version audio, tout au moins.
Oui.
Ça a réussi. Et la version texte, donc sans images.
Oui.
Comme ça, on n'a pas de problème.
Voilà.
On peut laisser la photo de lui.
Ça sans problème. Alors, Vous êtes d'accord pour plutôt poser des questions après, ou est-ce que vraiment, peut-être, vous avez tout de suite dans l'idée
non,
de poser des questions?
Non, je crois que là, j'ai un père de fil.
Ouais, moi, je crois, hein, je crois quand même. Il vaut mieux poser des questions maintenant.
Ah oui, oui,
je vous mets l'adresse mail.
Alors, au niveau, peut-être ne pas faire passer à chacun, même si tout le monde peut-être a eu du gel, je ne sais pas comment faire pour que ce soit le mieux pour vous. Ou je vous le fais passer, ou alors je le garde, je viens près de vous.
Attends.
Et vous parlez.
On va mettre le pied.
On met le pied, vous venez poser votre question. Ça vous oblige à vous déplacer, mais. Qu'en pensez-vous? Alors,
oui,
déjà,
bien.
Voilà.
Le pied, c'est bien.
Qui veut venir poser une question? Voilà, ben Jean-Albert, c'est bien. Je t'ai pas scanné, Jean-Albert.
Pardon?
Je t'ai pas scanné.
La rue était complètement
bloquée, je vérifie. Ah, bien, alors. Ouais. Ouais, de
Chambéry,
notre ami vient.
Ça,
vous savez,
hein,
vous connaissez.
Ça. Bonsoir. Alors, tu as donné.
Approche-toi.
Oui, tu as donné des expressions clés, face à face. Le tout contre. Ouais, je le traduis comme vraiment l'importance de la communication, du dialogue, du contact. C'est-à-dire que cette démarche spirituelle passe à un moment donné, immanquablement, par un dialogue avec soi-même, avec l'autre, avec les autres. Et sans ce dialogue, il est difficile d'évoluer, de changer, de se transformer. Et j'ai trouvé que c'était au centre même du travail spirituel, parce que ça demande de l'audace, certainement, d'oser communiquer, de faire face à l'autre. Ça fait un peu peur, quoi. Et dans le contre, moi j'entends aussi la rencontre.
Oui, exactement, oui. C'est vrai.
Et, c'est vrai. Et ça me paraît essentiel dans tout travail spirituel. Voilà, tu me diras ce que tu en penses.
Ah, complètement, je suis tout à fait d'accord avec ta vision. Effectivement, le contre et la rencontre, et puis effectivement, le lien qui est nécessaire. Je pense que la femme, elle a été créée pour ça. C'est pour la communication, qu'on ne reste pas tout seul à penser dans son coin. Et c'est un peu la différence entre l'aleph, qui est l'être un peu universel, où on a un pied en haut, un pied en bas, et le bête où il y a la dualité. Qui est très bien exprimé dans le livre, je pense que vous avez tous lu le livre L'alphabet sacré de José Zenberg et Stenzel. Il décrit cette différence, tu vois, entre le premier aleph avant que la femme n'existe, et puis le bête où il y a la dualité, il y a la rencontre, il y a l'échange, qui est lui-même, alors que l'homme, enfin le aleph est stérile, le bête est créatif.
D'où un autre mot-clé qui nous a sorti, où on entend encore dans la résonance le contre, la contradiction. Et donc, pour nous tous engagés dans une démarche spirituelle, il ne faut surtout pas avoir peur de la contradiction.
Absolument. Et c'est en ça, d'ailleurs, que je ne suis pas trop d'accord avec les orthodoxes, parce qu'ils n'ont qu'une seule vision unique. Et sur cette vision unique, on ne peut rien construire.
Donc, même accepter la diversité des opinions. Et finalement, la richesse aussi du désaccord.
Bien sûr.
D'accord, on peut. Enfin, tu es d'accord dans le désaccord. Comment peut-il y avoir un vrai dialogue s'il n'y a jamais de désaccord?
Ah, ben bien sûr, il faut qu'il y ait un désaccord, c'est sûr. Avec sa propre épouse, on a toujours des désaccords, on en discute, on fait. Et c'est à la suite de ça qu'on arrive à construire quelque chose de positif. Si chacun reste sur son point de vue, eh bien, ça va aboutir au divorce. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une discussion et qui soit fructueuse.
Si je reviens historiquement, d'où l'importance de Vatican II, où enfin, nous les chrétiens, maintenant on n'a plus peur de cette contradiction et des désaccords. Je crois que pendant des siècles, dans l'histoire du christianisme, on avait toujours cette obsession du consensus, de la pensée unique. Et là, me semble-t-il, dans cette démarche hébraïque, on n'a vraiment pas peur du désaccord, des oppositions, que nous, finalement, par l'œcuménisme et les relations finalement judéo-chrétiennes, nous aider dans cet apprentissage de l'acceptation du désaccord, et on n'a pas à être troublé. C'est plutôt une planche de travail pour nous.
Absolument. Et pas seulement pour vous, mais même pour nous, quand on vous rencontre, on apprend des choses, on apprend un petit peu plus de d'onctuosité dans nos opinions, qui nous permettent de ne pas dire il n'y a que nous qui avons raison. Il faut qu'effectivement, qu'il y ait cet échange dans les deux sens.
C'est le but. Très bien. C'est le but de l'amitié judéo-chrétienne, apprendre à se connaître sous cette forme-là. Peut-être d'autres personnes ? Oui.
Bonsoir.
Alors moi, c'est pas forcément un gros de...
Plus fort et plus près.
En fait, c'est pas le commentaire que je voudrais faire n'est pas seulement à propos de ce soir, parce que ça fait quelques années, en fait. Et j'adore ces recherches à propos des mots et des lettres.
Merci.
Je trouve que c'est toujours un grand plaisir. Ce soir, ça m'a donné spécifiquement envie d'aller voir le mot affronter en rentrant chez moi. Parce que c'est la première fois que j'entends une nuance entre affronter et confronter. Et ça va me faire réfléchir à maman. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que je vais quitter la région. J'ai déjà regardé s'il y avait une AVC à l'endroit où je vais. Il y en a une à La Roche-sur-Yon, qui sera à 35 minutes de ma maison. Et j'ai déjà le nom de la personne à appeler pour avoir le droit d'aller à La Roche-sur-Yon. Je vous remercie pour ces regards croisés, parce que quelquefois la rencontre, elle peut être plus intime et dans l'échange, comme elle a pu être par exemple avec Eliane. Mais quelquefois la rencontre, elle se fait juste d'un regard, d'un sourire, de l'écoute d'une réponse à une question ou d'une question. Et moi, j'ai passé des super moments ici. Je vous remercie tous.
Merci.
Merci.
Merci
bien. Exceptionnellement, je vais être très bref. Je vais te remercier, bien sûr. Parce que ce soir, il y a eu une pêche très riche, pour ne pas dire miraculeuse. J'ai bien aimé la LED, parce que ce que tu nous as présenté vraiment nous a éclairé et va continuer à nous éclairer longtemps. Merci à Jean-Albert pour contre et à Eliane pour la pluralité. Effectivement, c'est le principe même de notre association. C'est le principe même de l'amitié judéo-chrétienne, où on peut confronter nos options spirituelles entre juifs, catholiques, orthodoxes, protestants, bouddhistes et autres options. Il y a d'autres options spirituelles. Et même au sein de chacune des confessions, entre guillemets, il peut y avoir des tendances très très différentes. Et puis, l'humour, il y a toujours beaucoup, beaucoup d'humour. Et avec les images que tu as choisies, qui vont rester gravées dans notre mémoire, ton intervention va toujours rester dans notre mémoire parce qu'en fait, elle est ancrée dans la vie quotidienne. Et quand on ira à la pêche aux moules, on t'emmènera, on gardera quelques moules. Non,
Merci beaucoup.
Merci,
Norbert.
Est-ce que d'autres témoignages, peut-être, pour m'aller, pour nous remplir encore, pour une plénitude?
Et ce qu'il fait là, ce qu'il a fait ce soir, il le fait régulièrement pour des... Je pense que tu le fais toujours.
Là, j'ai fini mes cycles. Donc j'ai longtemps fait des rééditions d'anciens commentaires. Mais effectivement, pendant plus de 2 ans, j'ai édité presque 120, 150
voilà.
commentaires.
Et vous envoyez ça sur mail.
Voilà, ouais. Voilà. Et donc, toujours très, très riche, très intéressant.
Merci.
Un peu dommage. peux le dire, parce que tu ne vas pas le dire toi, mais c'est un peu dommage qu'il n'y avait pas forcément des retours, c'est-à-dire qu'il y avait quand même de la part. Écoutez bien, parce que ça va revenir tout à l'heure, ce que je dis là. De la part de ceux qui reçoivent, il y a souvent beaucoup de passivité. Alors qu'il ne faut pas grand-chose. Avec une souris sur l'ordinateur, il suffit de cliquer sur répondre. Juste un petit merci. Et souvent, il n'y a même pas ça. Un peu dommage.
Et puis, c'est l'occasion justement de confronter
voilà.
un produit
voilà.
différent.
Voilà. Ça qui Mais il n'y a pas beaucoup d'amateurs de Sacha Guitry.
Oh, contre tout contre, c'est bon, hein. Est-ce que vous voulez, bien sûr, c'est pas très confortable, hein, il faut reconnaître, se mettre contre, c'est bon, mais c'est dans le bon sens, là, du terme. Voilà.
Ah, j'ai personnellement été bien intéressé, ayant un peu fait d'hébreu dans mes jeunes âges, quand je voyais à peu près, mais personnellement ça me déroute, c'est pour ça que c'est très important d'entendre, moi je dirais un peu une gymnastique à laquelle je ne suis pas tout à fait habitué quand je lis les textes bibliques où pour moi les mots ils n'ont sens que dans une phrase et la phrase dans un texte, et puis texte dans un livre, vous voyez, c'est ça. Donc ça me déroute par rapport à nos méthodes habituelles de lire la Bible, où on cherche plutôt ben, quelle est si on prend un livre, mettons le livre de l'Exode, Shemot, on va essayer de comprendre le rédacteur, comment il a disposé tout ça, mais on ne va pas se permettre de promener des morceaux de mots. Voilà, je trouve que c'est une manière d'explorer la richesse biblique.
Et la richesse de la langue. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que peu de langues ont une profondeur qu'on peut analyser au niveau de la lettre, du groupe de lettres. Enfin, c'est extrêmement riche et c'est ça qui m'a passionné quand j'ai étudié l'hébreu et la Torah. C'est vraiment que ces couples de lettres qui sont vraiment formidables qu'on retrouve dans...
En connaissant l'hébreu qu'on peut faire ça.
Oui, c'est vrai que ça...
C'est la limite de ce travail, mais qui apporte beaucoup, parce que voilà. Je pense que quand vous faites cela, vous êtes bien guidé aussi par, j'oserais dire, l'esprit biblique, c'est-à-dire, voilà, c'est en lien avec le... message biblique, si on peut dire, enfin, la totalité de la révélation biblique. Je pense dans votre manière de combiner tout ça, il y a une cohérence, je veux dire, c'est pas seulement une gymnastique.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la gymnastique littérale, si on peut dire, nous amène finalement à avancer dans son cheminement spirituel et à comprendre des choses qu'on pouvait louper au départ, comme l'histoire de la lèvre du chevreuil et du lait. Si on lit au premier degré, on dit bon, il ne faut pas manger le lait avec la viande, alors que la situation est beaucoup plus riche et beaucoup plus utile pour la vie. Enfin, moi, je sais que si j'avais connu ce sens quand j'étais plus jeune, je crois que j'aurais fait ma vie totalement différemment.
Tu aurais mélangé le lait et la viande.
Comment?
Tu aurais mélangé le lait et la viande.
Non, justement, j'aurais fait la coupure, la circoncision entre le lait et la viande, parce que je pense que c'est surtout intéressant, c'est ce côté de l'indépendance, c'est la mila en fait, c'est vraiment la coupure avec la famille. Il faut que le.
Oui, voilà, tu l'aurais fait dans ce sens-là.
Moi, j'en étais une des premières victimes, puisque moi, je me suis marié à 40 ans. On va dire, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à 40 ans. Donc, ça devient quelque chose. Et je pense que si j'avais connu la Torah avant, si j'avais pu comprendre ce message avant, eh bien, j'aurais vécu bien autrement.
Ah oui, d'accord. Donc, je comprends aussi un peu la psychanalyse, parce que je pense que les liens que vous faites, c'est des liens en profondeur, que, qui ne sont pas apparents, grâce aux mots, justement.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Tout à fait.
Oui, non, c'est ça. Ça nous apporte beaucoup, le fait de lire. A priori, on se demande quel est le rapport entre circoncision et donc ce commandement. Enfin, on arrive à faire des liens entre les différentes. Si on arrive à bien analyser les choses, entre des choses qui paraissent différentes, mais finalement qui sont très semblables.
D'accord. Voilà, donc continuez à nous stimuler. Merci. Ouais.
Tu as utilisé un mot très important parce que qui te caractérise bien, c'est explorer. Parce que tu es vraiment un explorateur de la Bible. Je me demande d'ailleurs si parmi les 12, je peux parler sans parler dans le micro parce que je suis à côté de l'enregistreur. Parmi les 12 explorateurs qui avaient été envoyés pour... explorer, en l'occurrence la terre de la promesse, et qu'il y en a 10 qui ont dénigré. Je suis à peu près convaincu, pour les deux autres, il y en avait un des deux autres qui était un de tes ancêtres.
Je voulais aussi revenir un petit instant sur l'histoire de l'accouchement et de la porte de la nativité. Parce que je me suis posé une question, donc finalement la première sortie de l'enfant, l'enfant est obligé de courber la tête, donc d'avoir un premier signe d'humilité en arrivant sur Terre. Et je me dis, et les enfants qui sont nés par césarienne, est-ce qu'ils ont la nuque raide ?
Les ostéopathes
me diraient
qu'ils sont spéciaux pour les enfants qui sont nés en césarienne. Les ostéopathes font des séances de travail crânien spéciales pour les enfants qui sont nés par
césarienne.
Exactement.
Ça ne se passe pas pour eux. Pour la souplesse de la nuque.
Alors, je ne sais si nous remercions Patrick. Vraiment, merci. Formidable travail. Bon, ben, nous allons voir s'il y a des choses un petit peu moins agréables, mais qui doivent être dites dans les règles de l'art des associations.